prenant la parole. Donc j'ai lu un passage où quand même je me suis dit, c'est quand même fort, hein, ce que les apôtres ont vécu et ben là où ils nous entraînent nous-mêmes, en fait. Parce qu'il n'y a rien qui ne soit donné de la part des apôtres qui ne nous concerne nous également. Chacun a sa mesure, bien sûr, mais ce que nous voyons dans le témoignage des apôtres, eh bien, nous pouvons, à une moindre mesure, nous pourrions aussi le vivre dans la plénitude qu'ils l'ont vécu, mais comme l'apôtre lui-même le dit, chacun reçoit du Seigneur voilà, une mesure de foi. Et ce que nous allons lire ici, eh bien, nous l'intégrons, et puis que le Seigneur nous donne de le vivre, chacun dans son contexte et à sa mesure. C'est 2 Corinthiens chapitre 6, versets 1 à... Alors je lis 1 à 13. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici, nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi, vous n'y êtes point à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants. Élargissez aussi votre cœur. Voilà un texte extraordinaire. Ce n'est pas beaucoup de personnes qui peuvent parler de cette façon. Et ça commence tout simplement par cette affirmation. Nous travaillons avec Dieu. Ces hommes, ces apôtres, étaient serviteurs de Dieu. Ils travaillaient avec Dieu. Et pour pouvoir travailler avec Dieu, ils avaient un cœur grand ouvert. Nous avons un cœur grand ouvert pour vous. Nous voulons contenir chacun d'entre vous dans nos cœurs, en fait, dit l'apôtre. afin que ce travail de Dieu puisse se faire. Travail qui consiste à quoi ? Qui consiste à répandre, faire connaître la grâce accessible de Dieu, la grâce abordable, la grâce qui est à l'œuvre. Et nous vous exhortons donc à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, parce que la promesse est là. Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Il y a un temps favorable, il y a un jour du salut. Mais Paul ne dit pas, ben, ce jour, il va venir à un moment donné ou à un autre pour vous. Ce jour, il est là. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Et pour que ce temps se manifeste dans la vie de ceux à qui ils apportent la parole de Dieu, eh bien, l'apôtre était prêt à être totalement consacré à cette prédication et à cet amour de ceux pour qui la grâce de Dieu veut se manifester. Donc, recevez la grâce et finalement, élargissez-vous aussi, élargissez vos cœurs. Finalement, devenez comme nous. Reconnaissez également ceux qui sont recommandables et devenez vous aussi recommandables de la même façon, en portant cette grâce, cet esprit de grâce, pour qu'il n'y ait absolument aucun obstacle à l'accueil de la grâce de Dieu. L'apôtre était prêt à tout supporter, ne voulant scandaliser personne, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme, mais nous nous rendons recommandables à tous égards. Et effectivement, les apôtres, et l'apôtre Paul en particulier, avec ceux qui l'accompagnaient, pouvaient, et a posteriori maintenant, on peut en faire le bilan, ils ont vraiment été totalement intègres et totalement recommandables. On peut s'appuyer sur leur témoignage, sur le témoignage de ces apôtres. Ils n'ont pas failli à leur mission, ils ne se sont pas détournés, ils n'ont pas cherché à récupérer pour eux-mêmes ce témoignage. Ils ont été totalement consacrés à Dieu lui-même pour la révélation de sa grâce en Jésus-Christ. Donc nous nous rendons recommandables. Et la première vertu, la première qu'ils ont cultivée pour être recommandables, c'est la patience. Nous nous rendons recommandables par beaucoup de patience. La patience qui a plusieurs domaines ici d'application, puisque beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Et ici, il ne s'agit certainement pas des jeûnes volontaires, mais des privations auxquelles étaient exposés les apôtres. Donc, voilà tous les domaines où ils ont exercé la patience. Patience qui les a rendus donc endurants. Ils ont été capables de s'endurcir par rapport à toutes les souffrances que cela impliquait, puisque ce sont toutes des situations de souffrance, tribulation, calamité, détresse, coups, prison, sédition, travaux, veille et jeûne. On voit décrit en partie donc ces situations dans le livre des Actes des apôtres, hein, et puis dans les autres lettres que l'apôtre peut envoyer, combien ses serviteurs ont dû faire face à toutes des situations qui pouvaient les décourager, qui pouvaient leur faire donc renoncer, mais dans toutes ces choses, ils ont appris la patience. Ils ont eu cette patience de Dieu, cette capacité de souffrir et donc de résister à toutes ces choses. L'apôtre Pierre ne dit rien d'autre à notre sujet, en fait. Lorsque nous prenons son épître, hein, au chapitre, sa première épître au chapitre 1, verset 6 et 7, c'est là ce qui fait votre joie d'être gardé pour le salut, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Notre foi est éprouvée, donc, par diverses épreuves. Chapitre 2, verset 19, toujours de l'épître de Pierre. « Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. » Et puis chapitre 4, verset 12 à 16. « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. » C'est donc non seulement les apôtres, mais les chrétiens, le chrétien qui est appelé à prendre cette patience dans l'épreuve. Et les apôtres l'ont manifesté tout particulièrement. Donc ils étaient recommandables à cause de toute la patience qu'ils avaient manifestée dans toutes ces sortes d'épreuves. Et puis aussi, ensuite, les autres vertus qui s'ajoutent et qui les rendent recommandables, nous nous rendons recommandables par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, extrême douceur, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Toutes ces vertus qui s'ajoutent les unes aux autres, pureté, connaissance, longanimité, bonté, Esprit Saint, charité sincère, toutes les qualités qu'il manifeste, les dons d'amour, en fait, du Seigneur, mais aussi de connaissance, le fruit de l'esprit, en fait, hein, le fruit de l'esprit. Si nous prenons Galates, chapitre 5, donc, verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Toutes ces choses étaient en abondance dans le cœur des apôtres. Et aussi donc la connaissance vraiment intime du Seigneur. Et puis il y a ces trois, on peut dire, qualifications spécifiques Hein, parole de vérité, puissance de Dieu, arme défensive et offensive de la justice. Les apôtres étaient particulièrement donc qualifiés par rapport à la parole de Dieu et par rapport à la puissance du Saint-Esprit, pour également que cela fasse partie de leur, on peut dire, de leur recommandation, à cause de toutes les œuvres également puissantes qu'ils avaient manifestées, puisque l'apôtre également opérait des guérisons, des miracles par la puissance de Dieu, et il prêchait avec autorité. Donc, ils étaient recommandables de cette façon, aussi bien par des qualités dans leur relation que par la manifestation de la parole de Dieu. Nous aussi, nous sommes appelés à ajouter les vertus les unes aux autres, et c'est encore Pierre qui nous le dit dans sa deuxième épître, au chapitre 1. Comme, à partir du verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre vertu, à votre foi à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il ne s'agit pas d'avoir seulement une vertu, mais de cumuler les vertus qui montrent que Dieu est à l'œuvre dans beaucoup d'aspects de nos vies, dans nos cœurs. Alors à partir de ces vertus qu'il met en œuvre, à travers toutes sortes de situations, d'épreuves, de tribulations, eh bien, les apôtres sont considérés, vus de l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose auquel nous sommes tous exposés, hein, le regard d'autrui. Comment est-ce que les autres nous regardent? Comment est-ce qu'ils nous considèrent? Les jugements extérieurs, des considérations qui peuvent vraiment détruire notre ministère, nous décourager, simplement, même le simple engagement chrétien peut être détruit si on se laisse, on peut dire, dominer par le regard d'autrui, qui peut être parfois un regard flatteur, mais souvent un regard critique. Et ici, donc, l'apôtre montre à quel point il aurait pu, si il s'était laissé, on peut dire, impressionner par le jugement d'autrui, il aurait pu justement se décourager, il aurait pu abandonner le ministère, mais il avait en lui des ressources qui lui permettaient de faire face à ce regard. Étant regardé, alors, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. Là, il y a quand même deux encouragements. Hein. Les apôtres pouvaient quand même, à certains moments, être dans des situations qui étaient regardées comme glorieuses par ceux qui les observaient et qui pouvaient aussi donc inclure une bonne réputation. Mais à part cela, tout le reste, le regard extérieur est négatif, puisque regardé comme imposteur, regardé comme inconnu, regardé comme mourant, regardé comme châtié, regardé comme attristé, regardé comme pauvre, regardé comme n'ayant rien. C'est ainsi qu'ils étaient, on peut dire, considérés et que certains parlaient d'eux. Hein. L'apôtre le savait, l'entendait et donc était conscient de toutes ces critiques, en quelque sorte, qui leur étaient adressées. Ils étaient regardés comme imposteurs, c'est-à-dire ayant pris peut-être tout simplement une place et un rôle qui ne leur revenait pas, hein, comme apportant un enseignement qui ne venait pas de Dieu. Mais l'apôtre sait qu'ils étaient véridiques. Comme inconnus, des personnes à l'influence négligeable, qui ne pouvaient pas s'imposer dans la société. Et pourtant, Paul dit qu'ils sont bien connus. En fait, quand on pense à Jésus lui-même, au regard de l'histoire profane, le peu de traces qu'a laissé Jésus dans l'histoire profane, au point que certains prétendent qu'il n'a même pas existé. Le témoignage qu'on a de Jésus vient de ses disciples, principalement. Il y a 2-3 mentions dans des textes extérieurs. Mais Jésus n'a rien laissé qu'il permette qu'il soit connu, on peut dire, dans l'histoire des hommes. Jésus est même lui-même regardé comme inconnu par beaucoup et par les historiens en particulier. Et pourtant, il est bien connu et son évangile est répandu dans le monde entier. Comme mourant, je pense que certains étaient toujours en train de penser... ça y est, ces apôtres-là, ils arrivent au bout, ils ne vont plus avoir d'écho, ils ont eu du succès pendant un moment, mais maintenant, ça se termine. Eh bien non, dit l'apôtre, nous vivons. À chaque fois que quelqu'un nous regarde comme mourant, nous vivons. Ah, comme châtié. Regardez comme châtié. Châtié par qui? Je pense que pour... beaucoup de juifs, les apôtres étaient châtiés de la part de Dieu. Dieu les châtiait justement en les mettant en prison, en faisant qu'ils reçoivent des coups. C'était mérité pour un certain nombre de juifs. Mais même au regard des lois humaines, ils étaient réprimés. Ils étaient battus, pas seulement par des juifs, mais également par des autorités romaines. Mais l'apôtre sait bien que tous ces châtiments, eh bien, n'impliquent pas une mise à mort. Ils ont toujours été délivrés de ces châtiments et preuve que Dieu est bien avec eux. Attristés comme attristés. C'est-à-dire peut-être pas bénis, pas récompensés de leurs efforts. Paul lui-même le dit. Voilà, je suis accablé tous les jours par les soucis que me donnent les églises. Donc effectivement, il y avait beaucoup de sujets de tristesse dans leur ministère, mais ça ne les empêchait pas d'être toujours joyeux. Et Paul, alors qu'il est prisonnier à Philippe, enfin, qu'il écrit aux Philippiens, hein, il est dans une situation de prisonnier lorsqu'il les exhorte en disant « Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous !» Et combien de fois, donc, il est aussi question des moments où ils ont été frappés, là, plus spécialement l'apôtre Pierre et Jean, hein, et ils étaient joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur. Et donc, dans le passage que nous avons lu de Pierre, c'est la même approche pour nous. Pierre nous demande de nous réjouir, de garder notre joie à travers l'épreuve. Et effectivement, donc même lorsqu'il y a des sujets de tristesse, nous pouvons garder la joie du Saint-Esprit en nous. Comme pauvres, bien entendu que littéralement les apôtres n'avaient pas de biens personnels à leur disposition, mais ils en enrichissaient plusieurs, dit-il. Alors, on peut penser bien sûr spirituellement par tout ce qu'ils apportaient, mais également ils étaient les médiateurs pour permettre à des chrétiens d'être secourus, et l'apôtre Paul lui-même a fait donc le voyage pour aller d'Antioche à Jérusalem apporter le fruit d'une collecte. Donc il collaborait aussi à la diffusion des biens matériels, mais ils n'en avaient pas besoin pour autant d'être pour eux-mêmes. L'apôtre dit, je sais me contenter d'être heureux dans la situation où je suis, que je sois dans l'abondance ou la pauvreté. Et comme n'ayant rien, et là bien sûr c'est le sommet, puisque n'ayant rien et nous possédons toutes choses. Là ils avaient vraiment cette conscience par la connaissance de Jésus-Christ d'être en possession du royaume de Dieu, de tout ce que Dieu nous a, toutes les promesses de Dieu en Jésus-Christ. Nous possédons toutes choses, nous dit l'apôtre. Voilà comment ils étaient à la fois déconsidérés, mais comment dans leur cœur ils avaient une totale assurance, et rien de ce qu'on pouvait dire d'eux, rien de la manière dont on pouvait les regarder ne venait les décourager, les déstabiliser, les faire renoncer à ce ministère, cette dispensation de la grâce de Dieu. Et vraiment, c'est quelque chose que nous devons, nous, pour nous-mêmes, bien intégrer. Ce qui est important, ce n'est pas tout ce que l'on va dire de nous, répandre comme impression à notre sujet. Ce qui est important, c'est ce dont nous sommes absolument remplis concernant ce que le Seigneur nous communique, nous donne, et que nous pouvons continuer à mettre en œuvre. Et le fruit, eh bien, se répercutera sur ceux à qui le Seigneur nous donne d'être des témoins. Hein. Ici, bien sûr, l'apôtre parle particulièrement aux Corinthiens, mais il a la même attitude envers les Thessaloniciens, pour lequel il dit qu'il a été comme une mère pour eux. Et je pense que partout où l'apôtre passait, il avait exactement ce même désir d'être tout entier à ceux à qui il prêchait l'évangile, pour que la grâce de Dieu puisse faire son œuvre au milieu d'eux. Alors nous aussi, hein, 1 Pierre chapitre 2 verset 12. ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Et au chapitre 3, verset 16, « Et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Donc ne nous lassons pas de faire le bien, nous aussi. Sachons reconnaître ceux qui travaillent pour Dieu de la même manière que les apôtres et que Paul en particulier. Hein, et ceux qui travaillent en travaillant pour Dieu travaillent pour nous. Et puis imitons-les également. Hein, aujourd'hui encore, cherchons à ce que cette description-là puisse être reprise pour des serviteurs de Dieu dans le monde, au milieu de nous. Hein, ce ne sont pas ceux qui ont, on peut dire, qui peuvent faire avoir une grande audience, des grandes tribunes, etc., une grande place sur le net, etc. Tout ça, ce ne sont pas nos critères. Nos critères sont de connaître des serviteurs, des servantes qui ont cette patience du Seigneur, qui manifestent cette patience du Seigneur, cette pureté, cette connaissance, cette longanimité, cette bonté, cet Esprit Saint, cet amour sincère, qui sont remplis de la parole de vérité, de la puissance de Dieu, de la justice de Dieu, et qui savent ne pas tenir compte de toutes les critiques qui sont faites à leur sujet, toutes les fausses considérations à leur sujet, mais qui continuent toujours à aimer et à transmettre la parole de la grâce. Alors c'est pour vous, hein, en vous engageant vraiment dans le témoignage, eh bien vous pourrez vivre à votre mesure certaines de ces situations. Hein, pour l'instant, moi personnellement, je ne suis pas allé en prison, hein, pour témoigner du Seigneur. Hein. Qu'est-ce que j'ai pu connaître de ces choses-là, hein, de tribulations, de calamités, de détresse, des coups. J'ai reçu des crachats en témoignant à la braderie de Lille. J'ai reçu aussi des coups dans le cadre du club des jeunes. L'éveil, un peu, mais pas trop quand même, hein. Les jeunes, j'ai pas beaucoup été privé dans ma vie. Mais si tout cela devait se produire, hein, eh bien, que le Seigneur nous rende vraiment capables d'y faire face dans l'esprit de la grâce. Concernant le regard sur, hein, la manière dont on est considéré, alors il y a des fois où déjà je peux dire que j'étais surpris de la façon dont peut-être certains considèrent notre approche du ministère. Nous pensons être remplis d'amour, de compréhension envers chacun, et ce n'est pas toujours perçu de cette façon-là. On expérimente tous d'une manière ou d'une autre donc ces incompréhensions, et il nous faut alors nous retourner vers le Seigneur, comme il est dit au sujet de David, hein, David s'appuya sur Dieu et il reprit courage, hein, parce qu'il était dans une période justement où autour de lui il y avait des turbulences, parce qu'il avait a priori pris une une mauvaise orientation. Eh bien, que le Seigneur nous donne de nous fonder en lui et de trouver toujours en lui cette force et cette capacité de résistance, pas pour être nous-mêmes, on peut dire, nous poser, nous, face aux autres. C'est pas ça le sujet, c'est pas ça que Dieu nous demande. C'est d'être ferme dans le véritable message, la véritable transmission de la connaissance de Christ, être à disposition de cette connaissance de Jésus-Christ. Et pour cela, vraiment, eh bien, nous serons déconsidérés, même calomniés. Le monde cherchera à nous placer ailleurs que là où nous sommes véritablement pour ne pas entendre en fait ce message de l'Évangile. Alors que le Seigneur nous aide et que le témoignage des apôtres soit encore actif dans nos vies. Amen.